France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et j'accueille aujourd'hui Serge Rezvani, cet enchanteur qui nous dira peut-être s'il est plutôt peintre, écrivain ou auteur de chansons, des chansons que nous connaissons tous, comme Le Tourbillon ou J'ai la mémoire qui flanche. Quelques-unes ressortent aujourd'hui en disque. Après la disparition de Jeanne Moreau, l'occasion d'évoquer avec Rezvani sa vie très passionnante et très musicale, mais surtout fort éloignée de tout ce qui pourrait ressembler à une carrière. Serge Rezvani, dans quelques minutes, juste le temps langoureux d'une valse viennoise. Ah, j'adore cette voix du grand ténor suédois Jussi Björling, ici en 1932, dans une opérette de Paul Abraham qui s'intitule Fleurs de Hawaï. Et puis d'ailleurs, j'adore aussi ces mélanges, vous savez, entre un ténor scandinave, une opérette viennoise, et puis les rivages du Pacifique où ça se déroule. C'est aussi ça l'opérette, ce monde des mélanges improbables. We'll be right back. Ça, c'était pour refermer la parenthèse nordique après le ténor suédois. C'était le Strauss de Scandinavie, c'est ainsi qu'on le surnommait, Lumbi, ce grand compositeur, ici dans un salut à Auguste Bournonville par l'Orchestre symphonique d'Odense, sous la direction de Peter Gut.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous l'ai dit, nous avons rendez-vous sans plus attendre avec un homme exceptionnel que nous connaissons tous, au moins par certaines de ses chansons. Beaucoup ont été enregistrées par Jeanne Moreau et Françoise Canetti a eu la bonne idée de les rééditer, l'intégrale donc de ses chansons dans les versions de Jeanne Moreau. C'était l'occasion de le rencontrer pour parler de tout le reste parce que sa vie est bien plus riche que quelques chansons. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Serge Resvani.
Les hommes, ils aiment, les femmes, à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle a pas d'homme. Un homme sans femme, il reste en panne.
Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole, et quand on s'affole, hélas, il est trop tard d'agiter son mouchoir.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Au paradis, y a plus de flammes. Au paradis, sont les hommes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre.
Elles rêvent à la fermeture éclair. Qu'elle remonte à d'un air si fier. Elle rêve des divans profonds, entrevus dans le garçonnière. Mon Dieu, pourquoi fiche tes manières? La vie s'envole, et quand on s'affole, hélas, il est trop tard pour tordre son mouchoir. Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames. Même parfois, les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes de plage qu'ils entraînent à la nage, à moins aquatiques et sauvages.
Faites la vie d'âmes honnêtes, catherriettes et honnêtes, brunes ou blondes, minces ou rondes, vous êtes sur la map monde pour faire plaisir à tout le monde.
La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Bonjour Serge Resvani.
Bonjour.
On vous associe toujours à l'amour, mais moi j'avais envie de commencer avec l'humour, parce que j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose d'important dans votre vie.
Je crois que l'amour sans humour n'est plus de l'amour.
Voilà, tout simplement.
On s'ennuie, et en amour on ne doit pas s'ennuyer. Et donc le rire est très important.
Toute une dimension de fantaisie ouais, qui est présente beaucoup dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez écrit, dans ce que vous avez chanté.
Mes chansons sont la trace d'un moment de ma vie, de notre vie, je veux dire d'abord ma femme, Lula,
oui,
et puis tout un groupe d'amis. On se réunissait chez Jeanne Moreau, justement, qui à l'époque avait un tout petit appartement rue de Douai, avec son mari Jean-Louis Richard. Il y avait Boris Vian, il y avait Truffaut, il y avait bon, et on riait beaucoup.
D'après ce que j'ai lu de votre vie, au fond, la fibre paternelle, parce que votre père était un homme qui faisait énormément rire, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Oui, il avait beaucoup d'humour, c'était un grand magicien. Oui, bien sûr, je tiens un peu les deux, je tiens du tragique de ma mère et du rire de mon père.
Et du rire de votre père. Alors, en tout cas, cette chanson qu'on vient d'entendre, précisons quand même pour les auditeurs, elle était extrait d'un film assez loufoque où il y a plein de monde. Il y a aussi Francis Blanche, Guy Bedos, etc., qui s'appelait Dragée au poivre en 1963.
Vous avez
fait toutes les chansons avec Ward Singel. Vous rappelez qui est le grand Ward Singel?
Bien sûr. Il a été le premier d'ailleurs, quand j'ai écrit Le Tourbillon. Justement, j'ai demandé de le mettre en musique parce que je n'écrivais pas la musique.
Ouais.
Et quand il l'a mise en musique, il m'a dit « Mais Serge, tu ne crois pas qu'il faudrait peut-être dire « Dans le tourbillon de la vie » parce qu'il était carré comme tous les musiciens. Et moi, je ne suis pas carré du tout. Et j'ai dit « Ah ça, non. »
Ah ça, non. Et c'est évidemment le fondateur des Swingle Singers.
Bien sûr.
Et vous vous êtes associé donc pour toute cette musique de Dragée au poivre. Comment vous avez travaillé ensemble alors?
Je n'ai pas travaillé. Je ne travaille jamais avec quelqu'un d'autre.
C'est vrai?
Mes chansons sont un chant, je dirais, d'oiseaux.
Oui.
Je compose musique et paroles. Et c'est pour ça que je ne suis pas entré dans le métier parce que je ne suis ni parolier, ni musicien. Je compose mes chansons qui sont en fait mon journal chanté, à vrai dire. Chaque fois qu'un événement arrive dans ma vie, ça se traduisait par une ou deux chansons. Quand j'ai rencontré Marie-José Nal, j'ai écrit deux chansons, dont une s'appelle Marie Merveille.
Ouais.
Voilà. Et toute ma vie, ça a été cela. Et c'est ce que Truffaut aimait dans mes chansons, justement, c'est qu'elle racontait ce que nous vivions. Voilà.
Donc, single, il était plutôt là pour les mettre en couleur, oui, après, les arranger.
J'ai eu le problème, c'est que je n'écrivais pas la musique.
Voilà.
Je suis un musicien d'oreille, comme beaucoup de Russes, voilà, je chante. Ouais. Et donc, mais la SACEM m'a obligé de passer le concours de mélodiste, qui est absolument, à l'époque, ce qui n'aurait pas dû être. Et donc, j'ai dû co-signer mes chansons pendant un certain temps, avec d'autres, jusqu'au jour où j'ai appris que je pouvais reprendre mes chansons, que le tourbillon était quasiment tombé dans le domaine public, que je n'avais pas à passer de concours de mélodiste.
Alors, vos chansons, évidemment, elles vont être au centre de cet entretien, d'autant plus que sort l'intégrale de vos chansons pour Jeanne Moreau chez Canetti. Ça, on va y revenir tout à l'heure. On le sait, vous avez tout fait, le théâtre, la littérature, la peinture d'abord, la chanson. Vous savez, il y a toujours cette vieille histoire dans l'histoire de l'art, de la hiérarchie des arts. Vous faites une hiérarchie, vous, entre les arts ?
Je dis, je le redis toujours en riant, j'ai plusieurs arcs à ma flèche. En fait, je poursuis...
Plusieurs arcs à ma flèche,
voilà.
C'est joli.
Oui. Je prends des moyens différents, parce que je n'aime pas me répéter, je n'aime pas m'ennuyer, et donc chaque fois que j'aborde un nouveau moyen, disons, d'investigation, parce que finalement, qu'est-ce que l'art ? C'est d'essayer de connaître ce que nous ne savons pas de nous-mêmes, en nous-mêmes, et en l'humanité, je dirais plutôt même. Donc, qu'on fouille en soi par la musique, par la peinture, par tous les moyens artistiques, c'est une recherche qui dépasse le moyen. Ouais. Le moyen aide, mais ce n'est pas une fin en soi.
Donc vous ne mettez pas la chanson en dessous de la peinture dans votre vie ?
Absolument pas, sauf que je mets... Non, le problème, c'est que la peinture, la chanson... La peinture, n'en parlons pas. J'ai abandonné, je suis sorti du marché.
Oui.
Et quant à la chanson, je ne voulais pas être dans le show business du tout non plus.
Voilà. On
je voulais garder ma liberté.
C'est carrément quelque chose de récurrent dans votre vie d'ailleurs.
Absolument.
On va le rappeler, mais on va d'abord remonter un petit peu le temps. Alors j'ai parlé à l'instant de votre père, magicien, de son humour, mais vous avez eu deux autres pères, dont un certain Jean-Jacques Rousseau.
L'amour selon sa fantaisie ordonne et dispose de tout. Ce Dieu permet la jalousie et ce Dieu punit les jaloux. Oh, pour l'ordinaire, l'amour ne sait guère ce qu'il permet, ce qu'il défend. C'est un enfant, c'est un enfant. À son caprice, on est en but, il veut les rires, il veut les pleurs. Par les froideurs, on le rebute, on l'affaiblit par les rigueurs. Quand pour l'ordinaire, l'amour ne sait guère ce qu'il permet, ce qu'il défend. C'est un enfant, c'est un enfant. Voltigé de belle en belle, on perd parfois d'heureux instants. Parfois un berger trop fidèle est moins aimé qu'un inconstant. Oh, pour l'ordinaire, l'amour ne sait guère ce qu'il permet, ce qu'il défend. C'est un enfant. C'est un enfant.
Reynaldo Hahn en 1927, qui s'accompagnait lui-même au piano et qui chantait cet air extrait du Devin du Village. C'est une œuvre importante pour vous, Serge Reisvani.
C'est extraordinaire ce qui s'est passé avec le Devin du Village, je vais le dire en deux mots. Le roi, en se levant, sifflotait le Devin du Village, c'était l'équivalent d'un tube.
Oui, oui, oui.
Et il a dit, mais qui a écrit ça ? Et on lui a dit, oh, c'est un pauvre philosophe qui vit dans un galta et qui copie de la musique, parce que Rousseau avait un côté exhibitionniste dans sa pauvreté aussi.
Oui.
Et il lui dit, mais qu'il vienne, il m'attend dans la galerie des glaces, le jour où je passerai, je le remarquerai, je lui donnerai une pension à vie.
Ouais.
Et Rousseau n'y a pas été. Diderot, tout le monde l'en a voulu à mort.
Ouais.
Mais en fait, la vérité, c'est qu'il avait un problème de vessie très grave toute sa vie.
Ouais.
Et il ne pouvait pas attendre des heures sans pisser.
Eh ben oui.
Et
alors,
il a refusé
devant le roi, c'était obligé de rester sur place.
Voilà.
C'est extraordinaire.
Beau. C'est une belle explication de cette haine contre Rousseau qui est venue du fait, en disant, il est orgueilleux, il a refusé une pension. Parce qu'eux se sont vendus à Catherine et à d'autres. Et,
bon, bref. Vous dites que Rousseau et Nietzsche sont en fait vos deux pères.
Oui, si on peut dire, c'est des pères assez prestigieux. Non, ils ont été très importants pour moi, c'est vrai, j'étais très jeune, je vivais dans des pensionnats russes misérables, et mon seul refuge, c'était vraiment la lecture, ouais. Et c'est vrai que Nietzsche... Bien sûr, Rousseau ont été mes premières lectures.
Vos guides, il faut dire que vos parents, qui étaient des personnages extraordinaires, n'étaient pas néanmoins vraiment des parents.
C'était pas des parents du tout.
Pas du tout. Votre mère vous a carrément laissé en France pour retourner en Pologne, et votre père, lui, s'occupait de ses affaires de magicien.
Absolument.
Mais ce sont des personnages merveilleux qu'on retrouve.
Ah oui. Mon père était un personnage très parisien, et très vivant, très drôle, et un grand, grand magicien. Il y a encore des colloques sur lui, sur sa magie aujourd'hui.
Proche de Picasso, notamment.
Très proche de Picasso. D'ailleurs, oui. Une petite anecdote, on peut la donner aujourd'hui. Ouais. C'est que Picasso a passé leurs vacances ensemble à Cannes. Il lui a dit, viens choisir un tableau chez moi. Et mon père lui a dit, non, vraiment, tu fais les mêmes conneries que mon fils. Car à l'époque, j'exposais des toiles abstraites. Et mon père était très malheureux que je fasse de la peinture qu'il ne comprenait pas. Voilà.
Donc, il a raté son Picasso, c'est dommage.
Voilà, je trouve ça bien. Hein, non, j'ai aimé ça.
Ah bon? Ah bah, qui vous aurait assuré à une rente, à vous aussi, comme à Jean-Jacques Rousseau.
Jamais de la vie. Et j'ai trouvé très beau de la part de mon père d'être assez... Je crois que Picasso, c'est la seule fois de sa vie où quelqu'un a refusé un de ses tableaux.
Au lendemain de la guerre, donc, vous vous êtes devenu peintre dans une bande d'amis, avec notamment Jacques Lanzmann, son frère, etc.
Pierre Miskienko, Arnal... Il y avait bien sûr d'autres peintres comme Debré ou bien Alechinski, etc.
Et vous avez fait partie donc de cette école de l'abstraction française d'après-guerre.
Raymond Maison, que j'oublie, qui est un très grand sculpteur. Oui. Malheureusement, il est mort il y a peu de temps. Oui, on a eu la chance d'exposer à la galerie Mac, très jeune, qui à l'époque était la grande galerie quand même. Mais on vivait une autre époque où même des gens aussi durs que Mac, parce que c'était pas gentil, ben ils s'étaient déplacés voir des jeunes peintres, ils les a exposés parce qu'il y avait une curiosité qui n'existe plus aujourd'hui.
Alors, il faut dire d'ailleurs que cette école française abstraite, elle a été un peu balayée après par l'arrivée de la peinture américaine.
Les peintres français ont été fusillés par les Américains, on peut le dire.
À ce point-là, oui, vous voyez.
C'était une catastrophe, absolument.
Mais vous-même, vous avez évolué aussi dans votre regard sur la peinture, c'est-à-dire qu'au fond,
beaucoup évolué,
vous avez quand même un point de vue critique sur la peinture moderne.
Non, sur le surréalisme, sur la régression.
Ah oui.
Oui. Freud, la régression, les surréalistes, après la guerre de 14-18, les valeurs occidentales, on a vu ce qu'elles donnent. C'est quand même, il y a eu deux grandes guerres entre chrétiens, quand même, il ne faut jamais l'oublier. Ils se sont entretués par millions. Ouais. Donc le surréalisme est venu de cette première guerre et ils ont rejeté toutes les valeurs occidentales. Et donc ils sont revenus au dessin d'enfants, à la régression, à l'art nègre à l'époque aussi, etc. Et je pense que ça a été une grande catastrophe.
Un recul, vous pensez comme votre père finalement au bout du compte.
Mais j'en suis arrivé, oui, sauf que mon père c'était instinctif, moi c'est très raisonné.
Encore un mot sur ce milieu de la peinture de l'après-guerre qui a été donc votre première vie d'artiste, vraiment. Il y a un peintre que j'adore de cette époque qui était un de vos amis proches, je crois, qui est Poliakov.
Oh, c'était un grand ami, Pierre-Serge.
J'ai découvert dans vos entretiens avec Michel Martin-Roland que Poliakov jouait de la guitare.
Mais il vivait de ça. Il vivait de ça comme tous les pauvres Russes blancs. Ah oui, il était guitariste dans des bistrots russes, dans les restaurants russes. Et il était très, 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 très pauvre. Vraiment, je me souviens, Serge pouvait pas... Il manquait des dents. Il était très pauvre. Et puis, brusquement, sa peinture, il a eu la chance de tomber sur un marchand sûrement plus intelligent que les autres, qui a compris ce qui s'est passé pour De Staël aussi, que j'ai bien connu. Donc, à l'époque, on était tous très pauvres. Mais, brutalement, j'ai vu Poliakov avoir des chevaux de course, une Rolls. Mais la Rolls était conduite par son meilleur copain, qui était guitariste aussi, dans les mêmes bistrots. Voilà. C'était très...
Et un milieu de peintres musiciens.
Oui, absolument, bien sûr. Mais il y a beaucoup de peintres qui ont besoin de la musique.
Oui,
c'est silencieux. C'est silencieux et solitaire.
Vous expliquez aussi quelque part que quand on peint une femme, on devient soi-même un peu femme. Alors j'ai pris cet extrait des Mamelles de Tirésias de Poulenc où les hommes deviennent femmes et les femmes deviennent des hommes.
Femme représentant de toute autorité, vous l'entendez, c'est dit, je crois avec clarté, la femme à Zanzibar veut
cercant de moustiques d'autruche.
Et c'était Jean Giraudot à la fin du premier acte des Mamelles de Tirésias qui nous explique comment, puisque les femmes veulent plus faire d'enfants, c'est les hommes qui vont en faire à leur place.
C'est fantastique.
Ça vous plaît, Serge Rezvani?
Mais c'est pas que ça me plaît, ça me stupéfie parce que nous y sommes aujourd'hui.
Oui, un peu, oui.
Si, on est en train d'essayer d'inventer l'utérus artificiel. Ouais. Et puis, le professeur Bernard, j'avais lu de lui, qui est quand même un homme de l'éthique médicale, disant qu'on va enfin délivrer les femmes de l'horreur de la gestation, qu'elles seront libres. Mais à vrai dire, les hommes ont toujours envié les femmes. L'utérus artificiel permettra aux hommes, en effet, de délivrer les femmes et de décider, eux, encore une fois, à la place des femmes, de ce qu'il faut faire. Mais je trouve que c'est très grave. Nous entrons dans l'ère des insectes, c'est absolument évident, là.
C'est une évolution de la société.
Et moi, je mets très haut le féminin.
Le féminin,
le pôle
justement.
Féminin, je dirais, de l'univers, vraiment. Ouais.
Y compris dans votre peinture, dans vos livres, quand vous évoquez les femmes, vous dites qu'il y a cette dimension féminine qui se développe en vous.
Non, on devient peintre, je peins. D'abord, la beauté, le mot beauté a été inventé par le corps de la femme, c'est évident. C'est pas la pomme rouge au bout d'une branche qu'un singe va chercher. Non, l'homme a découvert le corps de la femme et il a voulu le peindre. Et c'est très important. Tous les peintres, même abstraits d'aujourd'hui, ont commencé par vouloir peindre le corps de la femme. Et pourquoi ? Parce que, en fait, on est très jaloux, sans le savoir, évidemment, du féminin.
C'est aussi, en tout cas, pour une femme, pour qui était votre compagne, Lula, d'une certaine façon, vous avez commencé à faire des chansons.
J'ai eu le bonheur d'entrer dans son féminin pendant 50 ans. Et ça a été pour moi une fascination extraordinaire. Vivre près d'une femme, si on sait regarder et écouter, c'est quelque chose d'infini.
Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée, vous qui étiez même encore dans ce milieu de peintre, après cette rencontre avec Lula, etc., tout d'un coup de faire des chansons, de les écrire, de les conserver, de les chanter?
Écoutez, je vécus avec elle pendant 50 ans dans une extraordinaire propriété que j'ai découverte dans la forêt des morts.
À la Garde Freinet.
Propriété italienne, très belle, avec de sources vives, avec des arbres centenaires et millénaires même. Et donc, nous avons vécu là, vraiment un peu en dehors du monde, dans une sorte de cercle enchanté. Ouais. Et je peignais. Mais un peintre ne peut pas rester seul. Il lui faut les poètes pour lui expliquer sa peinture. Et donc, très vite, je me suis enfoncé dans une sorte de peinture qui était négative. Et par ailleurs, la maison était fleurie. C'était un lieu fabuleux. Et donc, j'ai eu besoin de musique. Nous n'avions pas d'électricité. Une amie qui est Francesca Solvi.
Francesca Solvi, qu'on a reçue ici même.
Merveilleuse voix.
Oui, bien sûr.
Et qui a été la première d'ailleurs à déchiffrer, à chanter mes chansons.
Et qui vous a offert une guitare.
Et je ne sais plus comment, elle m'a dit, tiens, elle m'a donné une guitare. Et j'ai essayé de jouer des chansons russes que je connaissais, mais je n'y arrivais pas. Et donc il a fallu que je me trouve quelques accords et j'ai commencé à composer parce que j'étais incapable de chanter les choses existantes. En fait, je ne suis pas un interprète, je suis plutôt créatif.
Mais on a l'impression que vos chansons, elles ont un naturel extraordinaire. Je ne sais pas si elles sortent toutes faites comme ça de votre voix et de votre guitare.
Aucune angoisse.
Vous ne les travaillez pas pendant des heures et des heures.
Il se peut que 10 ans après, j'ai changé quelques mots dans certaines chansons. Mais à vrai dire, mes chansons viennent ensemble, musique et paroles. Et ma mère était une grande violoniste, donc peut-être je tiens d'elle. Uh-huh. Et mon père avait beaucoup de fantaisie, donc vous avez entendu la première.
En tout cas, voilà, donc Francesca Solville vous ayant donné cette guitare, Lula étant auprès de vous, celle qui entend la première,
En fait, c'était un moyen de séduction aussi.
Hein.
Ouais, ouais. Toute ma vie, j'ai voulu la séduire. Tous les matins, je voulais la séduire.
Et puis les amis qui se sont rassemblés donc autour de ces chansons, voilà. À la Gare de Fresnay, à Paris.
Surtout, il s'est passé une chose, c'est que le tourbillon, c'est deux accords. Rien du tout.
Ouais.
Et donc, mon premier ami, qui est Jean-Louis Richard, le mari de Jeanne
Moreau. Qui était à l'époque le mari de Jeanne Moreau, voilà.
Et il m'a dit, ah, c'est merveilleux, cette chanson, il l'a entendue par hasard. Je lui ai dit, mais tu sais, tu peux la chanter, regarde. Et je lui ai montré sur la guitare les deux ou trois accords dont j'avais besoin. Et il s'est mis à les chanter aussi. Et donc, peu à peu, il s'est créé un groupe d'amis où il y avait Truffaut, où il y avait... Oh, tout le monde, Jean-Boris Vian, Claude Rich, on était toute une bande. On se réunissait, Francesca Solville, on se réunissait chez Jean et Jeanne, rue de Douai, et toutes les semaines, j'apportais de nouvelles chansons, les chantais.
Voilà,
voilà ça s'est passé un peu comme ça. Mais ça n'a jamais été laborieux, et jamais surtout professionnel. C'était vraiment un moyen de réunion, de rire, surtout beaucoup de rire et de plaisir.
Alors justement, dans le disque qui vient d'être édité chez Jacques Canetti, par Françoise Canetti, il y a l'intégrale de vos chansons, celles qu'a chanté Jeanne Moreau, y compris des raretés, des chansons qui n'avaient pas été éditées, comme celle-ci par exemple, « Je ne suis fille de personne ». Vous nous dites peut-être un mot avant qu'on l'écoute ?
Bah, « Fille de personne », c'était « Fils de personne », la chanson, en vérité.
Ah bon ?
Une des rares chansons que Jeanne Moreau a transposées au féminin. Parce que sur ça, « Le tourbillon », c'est une chanson d'homme.
Ouais.
Et presque beaucoup des chansons qu'elle chante sont du point de vue masculin. Mais je trouve ça très bien, justement, que là, on a effacé les genres.
Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées. J'aime le goût d'écume, la saveur des embruns, la douce amertume des brumes du matin. Reverrai-je encore l'automne, le temps des grandes marées, puis l'hiver où tout frissonne, puis un printemps, puis l'été, toute saison pour aimer. Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain? Contre les humains qui s'aiment dans leur coin, les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous tous si peu de choses, des insectes trop petits, condamnés par quelques hommes, bouche ouverte sur un cri? Est-il encore temps d'aimer? Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner dans un lit de sable par les vagues bordées. Sous le grand soleil, avant d'être glacé, au bruit des abeilles, vivre le temps d'aimer. Laissez revenir les neiges, les feuilles mortes s'envoler. Laissez-moi me prendre au piège du doux plaisir d'exister. Laissez-moi le temps d'aimer.
Voilà un extrait du disque définitif Jeanne Moreau-Resvani, si on peut dire, puisqu'il y a vraiment tout là, je crois. Hein.
Tout ce qu'elle a chanté.
Tout ce qu'elle a chanté.
Non, très bien.
Vous avez des petits tiroirs secrets encore? Non.
Il y aura peut-être une surprise.
Ah bah, d'accord. En tout cas, voilà, ces disques, après le succès donc de Jules et Jim, c'est Jacques Canetti aussi qui les a voulu. Comment ça s'est passé, cette
Jeanne
aventure?
Jeanne avait la trouille. Non, c'est une professionnelle, Jeanne Moreau. Ouais, elle ne fait pas n'importe quoi. Même je l'ai vue tourner. Elle était la première sur le plateau, la dernière à partir.
Ah oui.
C'était une vraie professionnelle de parole. Vraiment, elle était très sérieuse dans ce qu'elle faisait, avec toutes les fantaisies possibles, mais c'était sérieux. Il s'est trouvé qu'on tournait Jules et Jim à Tannes, en Alsace, et il y a eu...
Vous êtes dans le film aussi,
voilà,
bien sûr.
Voilà, je fais le troisième homme, parce que Truffaut tenait énormément à ce que j'accompagne Jeanne à la guitare pour cette chanson.
Ouais.
On n'a pas pu finir un plan, et le lendemain, il fallait tourner, il y a eu 15 jours de brouillard. Et nous nous sommes retrouvés, toute l'équipe, coincée dans un chalet. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant 15 jours? On a chanté mes chansons.
Ah oui.
Et donc Jeanne les a toutes apprises, elle les chantait toutes et tout. Et en rentrant, Truffaut lui a dit, il faut absolument que vous fassiez un disque des chansons de Serge. Elle a dit, ah non, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Quoi. Et c'est Canetti qui l'a vraiment rassuré, qui est vraiment l'artisan, je dirais, de ce que nous avons là aujourd'hui.
Et vous-même, vous qui êtes plutôt un poète, un peu éloigné de certaines circonstances très pratiques de la vie, mais malgré tout, la fabrication du disque, ça vous a intéressé? Vous avez suivi les séances, les arrangements de François Robert, de Ward Single, ça vous a attiré?
Franchement, non. Aujourd'hui, je l'aurais fait.
Oui.
Parce que j'aurais peut-être conseillé Jeanne sur certaines chansons.
Ah bon?
Mais, oui. Non, mais c'est pas que je ne l'aime pas.
Oui.
Mais je pense qu'elle aurait pu, peut-être, mais c'est normal.
Oui.
Il est bien d'avoir des repentirs, comme disent les peintres.
Bien sûr.
Et donc, mais non, j'ai assisté à
quelques séances avec un très bon guitariste qu'on vient d'entendre là.
Baxic, bien sûr.
Baxic, qui venait des États-Unis pour le
Oui, il est venu pour ce disque, bien sûr. Qu'en a-t-il à faire venir? Mais disons que je vivais loin de Paris et donc, je ne peux pas dire que j'étais assidu à ce travail. Non, ouais. Je l'ai reçu.
Pourquoi vous avez pris un nom différent pour vos chansons?
En russe, Bassiak veut dire va-nu-pied.
Oui.
Et ça voulait dire justement que je n'en faisais pas ni mon métier, ni une source d'argent.
Ah oui.
Et que c'était vraiment pour moi quelque chose. Oui, j'étais
une
libre.
Aventure.
J'étais libre, j'étais pieds nus.
Ah oui.
Voilà.
Et puis vous retourniez dans le Midi.
Je vivais dans le Midi beaucoup, constamment.
Constamment. Alors le Midi, vous l'avez mis en chanson un certain nombre de fois. Et je crois que même quand, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, vous avez fait l'intégrale vous-même de vos chansons.
Oui.
Vous avez choisi de les enregistrer à Antibes.
Je n'ai pas choisi, c'est Actes Sud, mon éditeur, qui a choisi. Donc je trouve merveilleux de leur part d'avoir permis d'archiver mes chansons.
Ouais.
Il y en a plus de 100. Et donc, on a trouvé un très joli studio, les Italiens surtout viennent, à Antibes. Et là, j'ai enregistré l'intégrale. Mais il y a une très jolie chanson là qui s'appelle « La petite maison fleurie », qui est ma maison.
Oui. Et puis, il y a aussi le Saint-Tropez d'avant les grandes vagues
absolument,
touristiques.
Absolument, le Saint-Tropez, de l'hiver comme de l'été, le Saint-Tropez à l'envers, je l'appelle.
Saint-Tropez à l'envers.
Oui,
bah, alors là, on va vous retrouver, donc Serge Resvani, dans Saint-Tropez à l'envers.
Ah, très bien.
Enregistrement.
Parce
donc
que j'ai connu Saint-Tropez comme petit port de pêcheurs.
Eh oui, ça devait être bien.
Oui.
Sans tous ces affreux yachts
de la pêche en apnée. J'étais le premier pêcheur sous-marin après la guerre, là-bas. Oui, c'était sublime, de beauté.
Et après, vous n'avez pas fréquenté les premiers cercles mondains de Saint-Tropez autour de Brigitte Bardot
non,
et des autres?
Malheureusement, j'étais un peu triste d'ailleurs que Vadim dévoile ce lieu sublime qui était la Corse continentale. Mais Boris Vian a ouvert une boîte de nuit à La Ponche. Où j'ai vu Mouloudji, il l'a forcé à chanter du Ferré. Il y avait Anouk Aimé, qui était toute jeune.
Ah ouais.
Il y avait toute une bande d'amis, là, à un moment, de peintres surtout, mais c'était un Saint-Tropez difficile à comprendre et à évoquer aujourd'hui. Ça découlait quand même du Saint-Tropez de Colette. On s'est connus en hiver sur la plage, du Saint-Tropez à l'envers de l'été. On s'étend plus sur la plage des Salins, le sablier bleu. Par beau temps le matin, comme mauve il devient au soleil en déclin. On s'est aimé à Saint-Tropez, à ce qu'on pouvait être bien. On s'est aimé tant d'été sur la plage, du Saint-Tropez à l'envers de l'hiver. On s'est aimé sur la plage des Salins, le sablier fin, le soleil chauffe les reins. Quand après le bain on a soif, on a faim,
dans nos ombres mêlées à ce qu'on pouvait être bien. L'été, les nuits de pleine lune sur la plage, du Saint-Tropez à l'envers de midi, nos bains de minuit sur la plage des Salins, la mer sur ses mains s'allumait de phosphore et son corps scintillait de gouttelettes d'or sous un ciel pour nous deux, à ce qu'on pouvait être heureux. Maintenant l'hiver, revenu seul sur la plage du Saint-Tropez de nos jeunes années, ô plage des Salins, ne laisse pas s'effacer l'empreinte du pied nu de mon amant en allée. Sur la plage dorée où nous sommes aimés, tant aimés, tant aimés, à Saint-Tropez trop aimés. Toujours elle a aimé Saint-Tropez à l'envers, quand c'était l'été, elle espérait son hiver, quand c'était l'hiver, elle espérait son été. Quand on aime Saint-Tropez, on l'aime hiver comme été. Quand c'était l'été, elle espérait son hiver, quand on aime Saint-Tropez, on aime son endroit comme on aime son envers.
Saint-Tropez à l'envers avec Rezvani qui chante. Là, vous ne jouez pas de la guitare hein, dans
non,
le disque.
Non, j'ai un très bon guitariste.
Un très bon guitariste qui s'appelle Amaury Fillard.
Oui, merveilleux guitariste qui s'est retiré, qui était à Paris très lancé à une époque, et il s'est retiré dans le Midi, vit à Nice.
Et ça, c'était en 2005, donc vous avez vraiment archivé, si j'ose dire, l'intégrale de vos chansons.
Grâce à Actes Sud, j'ai pu archiver toutes mes chansons. Maintenant, elles sont là.
Alors après donc la peinture, on l'a dit, une nouvelle carrière Afremo s'ouvrait à vous, compositeur de chansons et de musique de film. Et là, c'est arrivé assez vite. Hein. Il y a eu après Jules et Jim, Peau de banane, Dofus, il y a eu Dragée au poivre qu'on a entendu tout à l'heure. Bien il y a sûr. Eu Pierrot le fou. On va en reparler dans un instant, mais on a l'impression que chaque fois que vous pourriez avoir un statut un peu établi, là en l'occurrence compositeur, vous empressez de fuir et de passer à autre chose.
Le mot statut est double. Hein.
Oui, c'est
ça. J'ai pas besoin de statut. Non. Pour moi, c'est... Non, ce sont les scories du feu, quoi, de la vie.
Ouais.
Tout ça, je l'ai brûlé, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture. J'ai écrit beaucoup de livres, j'ai beaucoup vécu tout ça, surtout. S'il en reste... à la limite, n'a aucune importance, sauf que, en effet, quand c'est interprété, ça reprend une importance à travers l'interprète.
Ouais.
Sans ça, ces chansons seraient restées dans un tiroir, vous savez, elles n'auraient jamais été chantées.
Oui, mais
par
le confort du succès, les lauriers de la gloire, etc.
Il y a confort et confort. Il y a une chanson que chante Jeanne Moreau qui s'appelle La vie de cocagne.
Ouais.
Je ne sais pas si vous l'avez choisi pour la passer, mais c'est le vrai confort du rêve de celui qui se retrouve dans les embouteillages, et que le vrai confort, c'est d'être dans une petite maison avec la femme que l'on aime, les chats, les chiens qui roupillent à ses pieds.
C'est l'idée d'épicure d'ailleurs, c'est le vrai bonheur.
Voilà. Moi je suis un épicurien, sûrement. Je n'aime pas les étiquettes, donc je ne suis pas épicurien, je suis rien.
Enfin, même beaucoup mieux que ça quand même.
Non, je vous assure, je suis ce que je suis.
Alors, oui, on disait également Godard, Pierrot le fou. Tout d'un coup, il a entendu les chansons de Jules et Jim. Oui, il vous a voulu, lui aussi, tout de suite.
C'est très drôle, parce qu'il passait en voiture pour faire les repérages de Pierrot le fou, à Porquerolles. Et il était avec son assistant qui était venu chez moi. Et les chansons, le tourbillon passait tout le temps, quoi. C'était un tube, puisque c'est Vian qui a inventé ce mot, je crois. Et donc, il a entendu, il a dit, ah, j'aurais bien aimé des chansons de ce type-là. L'assistant, le voiture qui a tourné à droite, ils étaient.
Juste à côté de chez
vous. Pas loin. Et donc, il est arrivé un matin, très tôt.
Avec Anna Karina.
Non, avec l'assistant. Et voilà, il m'a dit, j'aimerais bien des chansons de vous. J'ai dit, bon, j'en avais trois sur mon magnétophone, et je suis passé. Il a dit, c'est ce qu'il me faut. Je dis, très bien.
Ah oui, vous ne les avez pas faites exprès pour
jamais,
le film?
Jamais. Aucune chanson n'a été composée dans
jamais.
Un autre but que le plaisir de les composer. Non. elles ont dépassé le cercle, là, vraiment. Non, elles n'étaient pas faites pour être aux autres, elles étaient faites pour ma femme, pour mes amis et pour moi.
Il y avait d'ailleurs dans l'équipe, si on peut dire, de Pierrot le Fou, un musicien que j'ai beaucoup aimé aussi, qui a fait, lui, les parties plus symphoniques, si j'ose dire, du film, qui était Antoine Duhamel.
Ah oui, bien sûr, oui, j'aime beaucoup Duhamel, j'ai beaucoup aimé Duhamel, qui connaissait bien mes chansons aussi, bien sûr. Bien
oui,
sûr.
Parce qu'il avait aussi ce goût, d'ailleurs, je crois, pour la chanson, bien qu'il soit venu du milieu de la musique contemporaine.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui.
Et donc, vous avez enregistré deux chansons, hein. Enfin, Anna Karina, du moins, a enregistré deux chansons pour Pierrot
le
Fou.
Il y avait Belmondo qui chantait tellement faux qu'on n'a pas pu le faire chanter.
Ouais.
Et je pense, il y a eu un petit disque, comment ça peut, c'est pas
45 tours ouais.
Du film, et je crois, mais ça, que c'est Godard qui lui a donné la réplique sur la ligne de hanche.
Ah.
Parce que j'ai pas voulu le faire.
Et pour ce qui est de la nouvelle vague, d'ailleurs, je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, alors on a parlé de l'évolution de l'art moderne dans la peinture, votre regard assez critique, et aussi sur ce côté un peu dogmatique de la nouvelle vague, c'est quelque chose dont vous vous sentiez quand même pas tellement proche, même si vous avez été...
C'était terroriste, ils ont tué tout leur père,
c'est vrai,
qui étaient des grands metteurs en scène, français.
Oui.
Bon, ils n'ont pas tué Hollywood, heureusement, parce que moi, je suis plutôt de ce côté-là.
Vous êtes plutôt de ce côté-là.
Mais quand même, il y avait Carnet, il y avait...
Duvivier, Clouzot, etc.
C'était très beau, et c'est pas, ils n'ont pas fait beaucoup mieux. Disons qu'ils ont été un peu arrogants, un peu dandys dans leur façon de faire, mais je ne suis pas sûr qu'avec les années... La nouvelle vague ne va pas se calmer un peu aussi dans les esprits.
En tout cas, cette méchanceté des jeunes loups, vous n'aimiez pas trop ça. Hein
bon, la méchanceté, ça peut être très drôle à Paris, mais c'est pas un moyen de vivre, non, pas du tout, et de créer surtout.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la mer, ça me fait peur. Lendemain, ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, c'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
j'aime la caresse de mes mains, ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
l'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance, une si petite ligne, c'est moins que rien, à peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance,
c'est l'oiseau vol de nos destins.
Pierrot le Fou, 1965. Alors, Anna Karina, et peut-être, si l'on en croit Resvani, ce serait pas Belmondo, mais Godard qui dirait certaines des répliques.
C'est suffisamment triste, la voix de l'homme, pour que ce soit Godard, oui.
Suffisamment triste, le ton de la voix, oui, c'est
ça. Oui, quand il dit « je suis fou de joie tous les matins », comme s'il allait à l'enterrement, Ça ne plaît que Godard.
On parlait justement de la carrière et des honneurs, mais enfin, vous n'avez pas pu y échapper. Vous avez quand même eu deux fois le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour les deux disques de Jeanne Moreau.
C'est vrai. C'est
vous
vrai.
Êtes allé le recevoir, le prix ?
Non.
Non.
Et Mona Hestre aussi a eu le prix avec un disque de mes chansons.
Voilà. Non, vous n'êtes pas déplacé pour le cocktail.
Je ne suis pas pour les prix. Je suis contre les prix. Il y a trop de perdants.
Ah, remarquez, oui, c'est juste, oui.
Non, je n'aime pas du tout ça. Pour le Goncourt aussi, plusieurs fois. Non, je ne suis pas d'accord là-dessus.
Alors, c'était 1966, le deuxième album. Hein, et puis après, finalement, vous nous disiez que la peinture vous avait conduit à la chanson et la chanson vous a conduit à l'écriture.
Absolument. J'ai commencé une petite chanson qui est devenue un petit opéra de poche. Ouais. C'est ma première pièce qui s'appelle Immobile.
Ouais.
Bizarrement, c'est deux vieux, très jeunes, très gays, ouais, qui perdaient la mémoire et qui essayaient de retrouver les paroles et la musique d'une chanson. Et là, ça présageait déjà l'alzheimer de ma femme. Et cette chanson comique qui s'appelle « J'ai la mémoire qui flanche », bien sûr.
Ouais, ouais. Donc vous avez commencé à écrire du théâre et puis aussi des récits,
les chansons m'ont,
de la littérature.
M'ont conduit au théâtre, le théâtre m'a conduit à l'écriture. Et
mais pas de théâtre musical, vraiment. Vous n'avez jamais été tenté d'écrire une pièce musicale?
Si, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Le cerveau », où il y a 20 ou 30 chansons dedans. Mais Savary m'avait demandé, mais j'avais peur qu'il vulgarise quelque chose qui était déjà un peu vulgaire, qui aurait pu le devenir très. Et donc, cette pièce, je ne lui ai pas donnée, il ne savait pas qu'elle existait, et qui est dans mon théâtre complet, elle dort.
Ah voilà, elle est éditée, on peut la...
Voilà,
on peut même éventuellement la monter, parce que vous avez l'air d'être quand même très... facilement accueillant à ceux qui ont envie de reprendre ou de monter vos œuvres.
Je viens d'écrire une pièce pour Marie-Josée Natt,
oui,
que j'espère bien monter comme metteur en scène et décorateur, oui, et avec elle. Et voilà, on est en train d'hésiter entre plusieurs théâtres.
Mais alors, quand vous avez commencé à écrire du théâtre et des livres, vous avez cessé d'écrire des chansons? Vraiment ?
Pas du tout. Non. Capitaine Shell, Capitaine Esso, qui a été au TNP, monté par Jean-Pierre Vincent et sa troupe, ouais, ouais, il y avait une chanson qui... Comment dire ? La chanson, c'est un peu comme dans Jules et Jim. Et à un moment donné, quelqu'un se met à chanter cette chanson et la salle trépignait.
Ouais.
Donc, j'introduis toujours des chansons. Et ma prochaine pièce,
Avec Marie-Josée,
cherche justement un chanteur, comédien, qui sait jouer du piano, qui sait chanter, parce que j'ai mis pas mal de chansons dedans. Tout se recoupe.
On va écouter maintenant une version alors anglaise d'une de vos chansons par Vanessa Redgrave.
Oui, c'est très joli ce qu'elle fait. Oui. Ce qui s'est passé une chose, c'est que Tony Richardson, le metteur en scène,
oui,
a bâti un scénario autour de mes chansons pour faire un film d'après mes chansons,
oui,
qui s'appelait Red and Blue, tantôt rouge, tantôt bleu, qui est une des chansons que chante Jeanne Moreau. Et... le film ne s'est pas terminé, je pense. En tout cas, Vanessa Redgrave a enregistré 11 chansons.
11 chansons.
Et c'est très beau.
Très joliment arrangé.
Oui, l'arrangement est très beau.
C'est Ward Single et on va la retrouver tout de suite dans Geôle Rouge.
When I drink this danger, I punch up any stranger, and I may pick up a girl. I am Geôle Rouge, bosom my refuge, traveling the wide, wide world. I find nice young girls a bore, they are not much good to me. I like my dolls loose and free, who know what love is for. Sailing seven oceans, the Orient's love potions often help me on my way. One wife in San Diego, one more in Tobago, and another in Bombay. When my ship came from afar, on a port above the noise, little toffee colored boys would cry, Bonjour, papa! Survived tornadoes from Bali to Barbados. Ships went down and I just laughed. Knew some native maiden, east or west of Aden, would swim out to meet my raft. Cannibals for me have charm. At the feast I used to cram myself full of human ham. It hasn't done much harm. story, adventure and a movie, just to get a bite to eat. Wanting to be Joe LaRouche, this bar's my only refusion. Always had dry land beneath my feet. My horizon is the sky between the houses I pass by. I'm one more poor fool, it seems, who lives a life of dreams.
Et nous sommes toujours en compagnie de Serge Resvani pour évoquer sa vie, une petite partie de cette immense vie en chanson, en musique, avec par exemple cette chanson, donc Joe LaRouche, version anglaise. Mais alors c'était une chanson très importante, hein, dans votre groupe d'amis que vous avez évoqué plusieurs fois.
Oui, c'était une chanson drôle, comique, et qui était un peu notre hymne, si on peut
dire.
C'est
ça, dans les soirées avec Jeanne Moreau et Maurizio et compagnie.
Oui, elle la chante très joliment. Un jour on va la retrouver.
Peut-être, qui sait.
Si, si, on l'a retrouvée quelque part. Elle la chante dans un film de Tony Richardson avec Orson Welles, d'après Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras.
Et entre-temps, vous aviez travaillé un peu la guitare?
Pas ou... du tout, c'est mon ennemi.
Jamais.
Mon ennemi, la guitare, c'est l'horreur, ça fait mal aux doigts. Et j'ai jamais réussi à dépasser le... Ma guitare me serait uniquement à fixer la musique, quoi. À trouver musicalement ce dont j'avais besoin, car je suis très musicien par ailleurs.
Et comment est-ce que vous notiez les mélodies, alors?
Sur un petit magnétophone.
Sur un
Et puis non,
magnétophone.
J'ai une mémoire musicale, une très bonne mémoire musicale. Je crois que je connais beaucoup, beaucoup de musique, des opéras, tout par cœur, oui, absolument.
Vous allez au concert, vous écoutez les grands classiques?
J'ai 50 ans de silence, j'ai écouté toute la musique du monde, je peux dire.
Ah oui,
et
à
puis,
la gare
bon, j'ai vécu à Venise pendant 20 ans de ma vie, je vivais la moitié du temps à Venise et j'avais une loge à la Fénice. Ah donc, oui. Puis bon, j'allais à Aix, etc. Quoi. Non, je...
Ce qui m'a surpris, alors, et amusé, d'ailleurs, parmi vos amis, alors, tout à fait un autre monde musical, il y avait le compositeur André Boukourechliev.
On parle de Venise, et c'est là où je... En fait, Boukourechliev, très rapidement, par rapport à la peinture, c'est que dans les années 45-6, mon marchand de tableaux, Lucien Durand, me disait toujours, il y a un jeune musicien qui vient de...
De Bulgarie, je crois, oui.
Bulgare, qui s'assied devant ton tableau et qui reste des heures à le regarder et qui ne peut pas l'acheter.
Ouais.
Et puis plus tard, ce jeune musicien, c'était Boukourechliev. Et donc je l'ai rencontré un jour à Venise et on est devenus très, très, très amis. Et c'était quelqu'un que j'aimais énormément, très intelligent, un grand beethovenien, très bon écrivain.
Très bon écrivain,
très beau
sur la musique.
Sur la musique, sur Beethoven, sur Schumann, sur Chopin.
Bref. Oui, mais enfin bon, j'ai envie de demander...
Mais quel grand compositeur.
Quel regard jetait-il sur votre musique et vous, quel regard jetiez-vous sur sa musique?
Écoutez, d'abord le peintre...
C'est les antipodes quand
le
même.
Le peintre que je suis, d'abord, j'ai acheté toutes ses partitions.
Ah oui, parce que ce
c'est la
sont
musique,
comme des peintures.
Vous avez vu ça.
Bien
c'est,
sûr.
Les archipels, c'est sublime.
Il faut rappeler aux auditeurs que les archipels, c'est vraiment
aléatoire.
Des archipels.
Voilà, chacun pouvait choisir, c'était l'équateur, je sais pas, chacun pouvait choisir sa page, son morceau musical
L'interprète
dans un ensemble.
L'interprète se promène dans l'archipel.
C'est fabuleux.
Ouais.
Et donc, moi, j'admirais beaucoup, et j'adore les archipels surtout, que je connais assez bien.
Ouais.
Par contre, lui, ce qui est drôle, c'est qu'il aimait beaucoup ma peinture, bien sûr, la preuve. Mais surtout, un jour, il m'a dit « Mais quoi, c'est toi qui as composé ça? C'est pas possible !» Il m'a même dit une chose qui est peut-être un peu vantarde, mais je vais la dire parce qu'elle m'a fait très plaisir. Il m'a dit « Si Beethoven avait été vivant, il t'aurait piqué des airs pour les mettre. » Parce qu'il piquait, il piquait des airs populaires à Beethoven, souvent.
Bien sûr.
Donc ça m'a fait très très plaisir. J'aurais aimé qu'il pique un de mes airs pour le mettre dans un archipel.
On va peut-être écouter un extrait du premier archipel, alors, avec deux pianos et percussions.
Très bien.
Thank you. Le premier archipel de Boukhouresliev, un choix de mon invité Serge Rezvani. Serge, c'est bien votre prénom, hein ?
Oui, j'ai plusieurs prénoms. J'ai Cyrus, Boris et Serge. Oui.
Mais dans l'état civil, c'était...
Serge et Cyrus.
Serge et Cyrus, voilà. Qui est là aujourd'hui, bah, évidemment, pour évoquer les chansons, notamment celles de Jeanne Moreau, qui ressortent, mais aussi toutes ces chansons. On l'a dit tout à l'heure, donc, que vous avez finalement enregistré chez Actes Sud. Vous vous êtes mis assez tard à les enregistrer vous-même. Je crois que c'est en 1994, pour la première fois, que vous avez commencé à enregistrer vos chansons.
Par hasard, j'ai un ami qui s'appelle Frédéric Vitoux.
Oui, bien sûr.
L'écrivain, et qui passait par chez moi un jour, il avait un agra. Il m'a dit, tiens, si on a enregistré. Et on a enregistré un certain nombre de chansons. Et bizarrement, et j'avais un ami qui était un chef d'orchestre vénitien, ami de Boukhouresliev d'ailleurs,
ouais,
qui est passé par chez moi et qui les a emportés, les a écoutés dans sa voiture, et il m'a dit, je vais les éditer pour les offrir à nos amis. Et c'est à Venise que s'est fait ce premier disque que vous avez là, d'ailleurs, que je cherche, ouais, la surprise, qui est presque introuvable.
Notre folle jeunesse.
Voilà, qui a été édité par cet ami et repris par un jeune éditeur qui les a diffusés. Et malheureusement, c'est introuvable et beaucoup de gens me le demandent parce que c'était très joli. Ça a été pris sur le vif, comme ça, par hasard, dans la véranda, un après-midi d'été.
Mais vous, voilà, vous avez pris goût, enregistrer, monter sur scène, chanter.
Monter sur scène, j'ai pas pris goût, non, mais j'ai eu le plaisir, surtout avec Elena Noguera, de passer pendant 8 jours au théâtre du Rond-Point.
Oui.
Et puis j'ai donné un concert au Bout du Nord. J'ai donné quelques petits concerts comme ça, mais je n'ai pas la mémoire de mes textes, j'ai la mémoire de la musique.
Ah oui.
Donc je suis obligé de lire mes textes en chantant. Ce qui est un handicap. Et puis, j'aime pas me produire. J'aime bien être derrière ce que je fais plutôt que devant. Voilà.
Vous avez cité, à l'instant, c'est drôle, Le Monde des Petits, Frédéric Vitoux. Il se trouve que Frédéric Vitoux, il n'y a pas tellement longtemps, m'a présenté Mona Heftre.
Ah bon ? Ah, c'est sympathique.
Et Mona,
oui,
Heftre, qui a été une des personnes
sûr,
du Grand Magic Circus.
Mona,
c'est quelqu'un qui a aussi adoré vos chansons et qui s'y est...
Mais un jour, elle m'a écrit, voilà, et elle a... J'ai envoyé un petit enregistrement d'une des chansons et j'ai trouvé ça très très bien. Je lui ai, ouais, répondu parce que je l'ai encouragé et elle a donné un concert. Et puis j'y étais. Et puis
elle a fait un album entier.
Elle a fait deux
tantôt
albums.
Tantôt rouge, tantôt bleu.
Un album chez Actes Sud et un album qu'elle a produit elle-même.
Voilà. Voilà. Et vous aimez ces reprises ?
Énormément. J'aime, ouais, beaucoup ce qu'elle fait. C'est bouleversant, c'est déchirant ce qu'elle fait parce qu'elle aime, elle est amoureuse de l'amour.
Ouais.
Donc quand elle chante une chanson d'amour. C'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer, vraiment.
Ben, j'avais envie. Alors, évidemment, on aurait pu la réécouter par Jeanne Moreau, parce que le disque ressort, je l'ai dit, chez Canetti. Mais je me suis dit, au fond, écoutons Le Tourbillon par Mona Heftre.
Ah oui, c'est une bonne idée. Oui. Voilà. J'ai toujours encouragé que ce soit Mona, que toutes les femmes qui, après Jeanne Moreau, n'osaient pas.
Ouais.
J'aurais dit, mais non, tu chantes Le Tourbillon, bien sûr, il est à tout le monde. Et voilà, donc elle a osé l'enregistrer. Comme Elena Noguera a osé aussi l'enregistrer.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Mangeola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son du banjo, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émeure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Mona Heftre, qui viendra peut-être nous parler d'ailleurs un de ces jours de ces enregistrements, là, en l'occurrence, Le Tourbillon de Serge Rezvani, avec l'approbation et l'encouragement de l'auteur compositeur de cette chanson, qu'on peut évidemment retrouver, je le redis, dans la version originale qui vient de reparaître chez Canetti, dans l'intégrale des chansons de Rezvani, interprétées par Jeanne Moreau. Oui. Serge Rezvani, on sait qu'il y a eu un autre tournant heureux dans votre vie après les années très dures de la maladie de Lula. Ça a été la rencontre de Marie-Josée Nat.
Absolument.
Vous avez épousé en 2005.
Oui.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous voulez écrire une pièce, y compris musicale d'ailleurs, pour elle. Vous avez écrit déjà Marie Merveille.
Oui, quand je l'ai connue, bien sûr. Comme elle m'a donné trois numéros de téléphone, j'ai mis Marie-Josée Nat et puis Marie-Josée. Puis après, je ne savais pas le troisième numéro, j'ai mis Marie Merveille.
Ah.
Par hasard. Émerveillé de cette rencontre. Et puis voilà, ça a fait une chanson.
Voilà, et qu'on retrouve dans un livre qui est consacré aussi à cette histoire,
Absolument,
Ultime Amour.
Et que j'ai enregistré aussi dans mon...
Mais vous avez fait figurer les partitions dans le livre. Hein.
Ces deux-là. Oui, parce que là, il y a une chanson qui s'appelle « Je suis d'un autre monde », qui est mon ultime chanson, je n'en écrirai pas d'autre, qui est une chanson sur tous les morts que nous aimons. Si nous avons une raison de vivre, c'est aussi pour perpétuer leur mémoire.
Mais c'est ça qui me surprend un peu, Serge Rezvani, c'est ce mot ultime, ultime amour, ultime chanson, comme si vous aviez décidé. Mais on a l'impression qu'au contraire, vous qui avez cette liberté de vivre au jour le jour.
J'ai beaucoup de projets, mais j'ai 90 ans quand même.
Oui. Mm. Il y en aura peut-être d'autres.
Il y a encore 10 ans, j'ai 10 ans devant moi.
Oui, c'est ça. Donc c'est pas des vrais ultimes. Il y aura beaucoup d'ultimes, j'espère.
Oui, mais je pense que c'est pas mal, comme on disait dans le temps, brûler ses vaisseaux, se dire qu'on a. Oui. On est devant la falaise, quoi, et c'est un peu angoissant. Et donc, les projets sont importants, mais c'est bien de penser toujours que c'est terminé, qu'on ne refera plus, et c'est un moyen peut-être d'avoir envie de le refaire.
Aujourd'hui, vous vivez, alors, la garde freinée, c'est terminé, mais c'est plutôt la Corse,
oui,
et Paris.
Bonifacio et Paris. Oui,
et Paris qui a bien changé, mais vous décriviez ce changement, on va peut-être finir avec cette chanson étonnante,
j'ai quitté Paris,
qui s'intitule
«
Paris,
jeune.
Tu me rends dingue ».
J'ai adoré Paris et j'ai détesté Paris.
Ouais.
Sauf que j'étais parmi les premiers à sentir que Paris devenait le Paris d'aujourd'hui.
Ouais.
Je vivais sur les boulevards extérieurs, il y avait tous les camions des Halles qui passaient, on ne dormait pas.
Ouais.
Et j'ai très vite quitté. Grâce, je pense d'un malheur peut venir un bonheur, et c'est le cas. J'étais obligé de partir de Paris à cause du bruit, les voitures, de tout ce que je détestais. Et j'ai été vivre une vie paradisiaque dans le midi pendant 50 ans, ce qui est pas mal. Et donc, grâce à ce Paris que je détestais. Et quand Boris Vian, je lui ai chanté cette chanson, il m'a dit « Mais vous êtes fou, on ne peut pas faire une valse contre Paris. » Eh bien, c'est une valse contre Paris.
Mais on ne peut pas se passer de Paris non plus, puisque la preuve, c'est que vous y vivez quand même toujours une partie du
Paris,
temps.
J'adore Paris. Mais j'aime le Paris haussmannien.
Oui. Oh, il est encore bien présent,
très beau,
heureusement.
Très beau.
Mais ça, c'est aussi un peu à contre-courant de défendre Haussmann.
Moi, j'ai connu Paris sans voiture, et vous savez que les perspectives étaient belles. Elles sont amputées d'un mètre cinquante.
Ah, vous voulez dire que le Paris sans voiture, c'est pas celui qu'on nous promet aujourd'hui, c'est celui d'avant.
Mais celui de la guerre. Bon, il y avait les Allemands. Mais il y a eu une période extraordinaire où Paris était vraiment une ville extraordinaire, avec une série de petits villages. Et pendant le 14 juillet, il y avait des petits orchestres de coin de rue.
Et des bars.
Des gens du coin.
Ouais.
Non, c'était très différent, Paris.
Alors, Paris, tu me rends dingue, c'est la dernière qu'on écoute aujourd'hui ensemble. Mais j'espère qu'on se reverra. Et puis, merci d'avoir été avec nous, Serge Rezvani.
Merci. Et merci de passer cette chanson.
Quand je prends la dernière rame, je suis tout comme le naufragé. Mes poumons, ils sont en panne, ils ont besoin de s'aérer. Je rêve de blanches baleines, d'ambre gris dans la mousson. Pourtant, je cours à perdre haleine avant que ferme le portillon. Le métro, c'est mon cachalot. Qui aurait pas connu les flots, heureux les navires qui voient l'horizon autour d'eux en rond. C'est à ça que j'aspire, j'aime pas le téléphone, y a trop de numéros. Je ne connais que celui de ma môme, il est tout plein de zéros. Elle a l'âme sauvage, son lit c'est notre plage. Je hais le ciel de Paris, il est noir tout plein de suie. Et dire que les Alizés l'auraient tout de suite balayé, il deviendrait tout azuré, le bois serait plein de palmiers sur lesquels iraient grimper tous les matins les rentiers. Et leurs chiens pourraient pisser tout autour des cocotiers. Heureux les navires qui voient l'horizon autour d'eux en rond. C'est à ça que j'aspire, j'aime pas le téléphone, y a trop de numéros. Je ne connais que celui de ma môme, il est tout plein de zéros. Elle a l'âme sauvage, son lit c'est notre plage. J'ai comme des bruits dans la tête, j'ai d'étranges distractions. Il paraît qu'on va me mettre dans un petit cabanon. Je souhaite qu'il soit sur pilotis, je dis ça à cause des fourmis et des petites bêtes du pays qui veulent entrer dans ma tête. Les petites bêtes, c'est pas si bête, j'en ai tout plein mon plafond.
Paris, tu me rends dingue, par Rezvani, avec qui nous avons passé cette heure délicieuse. Merci à lui. Vous pouvez retrouver cet enregistrement comme l'intégrale de ses chansons, nous l'avons dit, chez Actes Sud. Et puis, bien sûr, il faut également écouter donc le nouveau CD qui vient de paraître avec toutes les chansons de Rezvani qu'a enregistré Jeanne Moreau. Ça s'appelle Le tourbillon de ma vie et c'est paru chez Jacques Canetti. Et puis, vous feriez bien de lire un peu les œuvres de Rezvani, dont notamment son dernier livre autobiographique, Ultime Amour, aux éditions Les Belles Lettres. Et aussi, je vous recommande, c'est passionnant, ces entretiens avec Michel Martin Roland, Le tourbillon de ma vie, aux éditions Écriture.
Thank you.
C'est amusant parce que figurez-vous que cette valse très enlevée s'appelle justement Tourbillon. Ah bah c'était vraiment par hasard, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça fait partie du coffret qui vient de sortir de Paul Bonneau avec le Grand Orchestre de Paris. Ça s'intitule 100% valse et c'est 4 CD chez Marianne Mélodie pour retrouver tout ce répertoire de charme très joliment enregistré par Paul Bonneau. Là, c'était d'ailleurs sa propre composition, donc Tourbillon.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis une autre actualité que je voulais vous signaler, c'est le début d'une grande production de Mamselle Nitouche, l'œuvre d'Hervé sous la houlette du Palazzetto Brusane avec beaucoup de maisons d'opéra français. Ça commence ce week-end à Toulon, hier la première, demain la deuxième, et Mamselle Nitouche sera ensuite repris notamment à Nantes au mois de décembre. Vous savez, c'est l'œuvre la plus célèbre d'Hervé, adaptée 2 fois au cinéma avec Fernandel et avec Rému. Je dirais pas que musicalement c'est son œuvre que je préfère, mais elle a ceci de très touchant. Qui raconte presque la vie d'Hervé avec cet homme qui a une double vie, à la fois musicien religieux dans un pensionnat et puis compositeur d'opérettes et d'œuvres légères en secret le soir. C'est tout le sujet de Mamselle Nitouche à redécouvrir donc dès demain à Toulon. Moi, j'ai ressorti un disque de nos archives de la radio, un très beau disque de 1954 sous la direction de Marcel Carivène avec ce ténor que j'adore, ce ténor qui s'appelle Claude Devos et qui nous explique qu'il vient de Saint-Étienne, la ville des manufactures d'art.
Je suis de Saint-Étienne, Loire, où qu'on fabrique au jour le jour des fusils instruments de guerre et des rubans aux déchets d'amour. Ma mère à la passementerie m'avait voué tes méchants ans. Mon père pétant dans la rumurie rêva pour moi la vie des camps. Moi j'ai suivi comme un béton le goût de papa. J'aurais mieux fait assurément des coups. J'avais une bonne amie, me voyant flotter vaguement entre une comptoire de mercerie et les douceurs du régiment. Celui que j'aimerais, me dit-elle, portera le casque de dragon. Je m'engage pour plaire à la mère. Et quand je revins dans le je la retrouve mariée. Et savez-vous qui elle avait épousé? Un petit mercier. Tout cela pour avoir suivi comme un bêta le goût de papa. J'aurais mieux fait assurément
Claude Devos sous la direction de Marcel Carivène dans cet extrait de Mamselle Nitouche d'Hervé, une œuvre à redécouvrir dès ce week-end à l'Opéra de Toulon. Et avant de nous quitter, je vous propose de finir avec un peu de ce répertoire symphonique divertissant, coloré et merveilleux qu'on ne donne plus malheureusement dans les concerts symphoniques mais qu'on peut encore donner à la radio, la Rhapsodie roumaine de Georges Enescu. la première rhapsodie roumaine, un tube du jeune compositeur George Enescu, qu'il avait créé à Paris en 1908 sous la direction de Pablo Casals. Et ça, c'est un enregistrement qu'on vient d'entendre absolument admirable, celui d'Antal Dorati à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Yanis Djoudad, Antoine Giraud, réalisation Christine Amado. Et bien entendu, nous nous retrouverons samedi prochain. J'aurai la joie à nouveau d'accueillir un invité illustre, Philippe Labraud, que vous connaissez comme romancier, comme journaliste, mais vous ne savez peut-être pas qu'il a été aussi l'auteur de nombreuses chansons, notamment pour Johnny Hallyday. Rendez-vous donc samedi prochain, ici même, avec Philippe Labraud. Et puis maintenant, vous restez sur France Musique. Il va être dans quelques secondes midi et demi. C'est l'heure de retrouver Philippe Venturini.
Merci, à la semaine prochaine, Benoît Duteurtre.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.